Le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, le rush des dernières heures avant Noël. Sur les routes, dans les gares, les aérogares, mais aussi dans les magasins et à la poste, c'est la folie annuelle précédant les fêtes de fin d'année. Des fêtes placées cette année encore sous haute sécurité. À Noël, fêté en avance hier soir pour Emmanuel Macron, le chef de l'État a réveillonné au milieu des militaires de la force Barkhane sur une base de Niamey au Niger. Une mauvaise nouvelle dans ce journal avec une hausse des prix du gaz au 1er janvier de 6,9%. Une augmentation prélude à bien d'autres. À suivre l'actualité sportive, le monde du rugby se prépare au départ de Guy Novès et à l'arrivée de Jacques Brunel. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard. Enfin, côté météo, grisaille au nord et un peu de soleil au sud. Précision de Jean-Michel Golinski à 8h15.
France Inter.
Plus que quelques heures avant Noël, l'heure des départs avec des routes très chargées. Une journée classée orange partout en France, rouge en Ile-de-France, vous venez de l'entendre. Des gares saturées, la SNCF attend près d'1 700 000 voyageurs pour ce week-end de Noël, qui coïncide cette année avec le début des vacances. L'heure des derniers achats aussi, et donc de la foule dans les magasins. Enfin, l'heure de la folie dans les centres de tri postaux, où tout est mis en œuvre pour que les colis, et donc les cadeaux, arrivent à destination pour demain soir. La Poste, qui enregistre un record, comme a pu le constater notre reporter Philippe Rendet.
2 700 000 colis par jour. Jamais la Poste n'aura livré autant de cadeaux en cette période de Noël. C'est un record absolu qui s'explique évidemment par l'explosion des achats sur Internet. Et cette année, le défi pour les 73 000 facteurs et les milliers de livreurs est encore plus grand. Jacques Grégorcic est le directeur des opérations Colissimo La Poste.
Souvent, vous savez, Noël était situé au milieu des vacances, comme c'était le cas l'année dernière ou l'année précédente. Or, en fin de compte, là, les gens sont encore tous au travail, donc on est susceptible souvent d'acheter encore parce qu'ils ne sont pas partis en congé, en vacances. Jusqu'à samedi soir, de toute façon, on est en exploitation complète. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'avec des volontaires, on sera susceptible de faire encore quelques livraisons le dimanche. Alors bien entendu, là, il n'y a pas du tout de garantie puisqu'on est sur l'utilisation de volontaires. Mais l'idée principale est qu'on puisse encore en livrer quelques-uns dimanche, même si on n'a pas de garantie par rapport à ce sujet-là.
Et beaucoup de cadeaux arrivent aussi par avion à l'aéroport de Roissy, où le géant américain de la livraison FedEx a fait son hub européen. 7 km de tapis roulant, plus de 30 000 colis triés chaque heure. Plus de 2 000 personnes travaillent depuis des semaines entre 22h et 4h du matin pour que tout soit prêt demain soir pour l'arrivée du Père Noël.
Voilà, et le hub, comme vient de le dire Philippe Rendet, n'est autre en français qu'une plateforme de tri et de renvoi.
Ce week-end de Noël, Serge, c'est aussi un événement où la sécurité prend toute son importance, surtout dans le contexte actuel.
Oui, raison pour laquelle les 7000 militaires de l'opération Sentinelle vont être fortement mobilisés, en plus bien sûr des forces de police et de gendarmerie. Pour Paris, ces militaires viennent d'entamer une session de 2 mois de surveillance qui les mènera jusqu'à fin janvier. Conséquence, ces soldats qui vont enchaîner patrouille sur patrouille passeront les fêtes de Noël et du Nouvel An loin de leur famille, Nathalie Hernandez.
Pas de trêve des confiseurs pour le capitaine Samy, parachutiste, et ses 90 soldats. Ils vont sillonner les rues de la capitale avec une attention toute particulière.
Les périodes des fêtes, il y a toujours une affluence certaine et donc une vigilance qui est de tous les instants. On a fait plusieurs fois cette mission, donc il ne faut pas tomber dans la routine, mais on connaît bien notre pays et notre zone d'opération. Pour certains des personnels, c'est la 7e voire la 8e. Donc c'est là où je parle vraiment de routine qu'il faut combattre pour ne pas enfermer les gens dans les habitudes et rester toujours alerte.
Des soldats concentrés sur leur mission, les proches devront eux patienter et se contenter de quelques contacts. Ce n'est pas le premier Noël sans sa famille pour le capitaine.
Psychologiquement, je pense que c'est effectivement plus dur pour nos familles. On garde contact avec la technologie qui nous offre beaucoup de palliatifs à notre vie de mari, de père. Moi-même, j'ai un garçon qui a 2 ans et quelques mois, qui est né alors que j'étais au Mali. Et c'est important de garder ce lien et d'entendre une voix, de voir des images malgré tout pour continuer à assurer son rôle de père de famille.
Pour ouvrir leurs cadeaux, eh bien, il leur faudra attendre maintenant de rentrer dans leur foyer début février.
Et au total, ce sont donc quelques 100 000 personnes, policiers, gendarmes et donc militaires, qui vont être mobilisés jusqu'à lundi soir pour assurer la sécurité de ces fêtes de Noël.
Oui, et des militaires qui par ailleurs ont accueilli hier soir Emmanuel Macron pour fêter avec un peu d'avance Noël. Ça s'est passé sur une base aérienne de Niamey au Niger.
C'est au sein de 500 membres de la force Barkhane déployés pour lutter contre les forces armées djihadistes de la bande saharienne du Sahel que le chef de l'État choisit de réveillonner, donc hier soir, respectant ainsi une tradition présidentielle. Un dîner de gala pour ces militaires soigneusement préparé par le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. Un dîner Noël et en même temps un dîner d'anniversaire, Franck Cognard.
500 treillis assis devant des nappes blanches, verres de vin, repas fin, flûte de champagne au dessert. La soirée se termine gentiment sur la base de Niamey. Elle avait commencé cette soirée pour la force Barkhane par le discours d'Emmanuel Macron.
Parce que l'éloignement de vos familles est encore plus durement ressentie qu'à l'habitude. Mais aussi parce que cette trêve de Noël n'apaise pas les tensions et les conflits.
Pour l'esprit de Noël, il y a quelques sapins dont le vert contraste avec les tons ocre et rouge de la base. Il y a aussi, pour l'esprit de Noël, ces histoires racontées, les rires autour des tables, à côté du brigadier-chef Frédéric.
Du coup, on se dit vraiment que c'est l'esprit de Noël, même si ici, c'est vrai que bon, on est dans le sable, le Sahel. Effectivement, c'est franchement, c'est dur. On a beau faire les guerriers, voilà, on est tous grands, costauds, on porte le treillis. On joue les guerriers, mais en fait, au fond de nous, ben, on est tous un peu tristes. Donc, du coup, ce genre de soirée-là, ça fait du bien.
Hier soir, c'était 2 jours en avance, Noël pour les militaires. Et hier soir, c'était pour le président, 1 jour en retard, son anniversaire. Niamey, François Rivalan, Franck Cognard, France Inter.
À l'étranger, en bref, le Conseil de sécurité de l'ONU a durci hier soir les sanctions contre la Corée du Nord. Se basant sur une résolution américaine, les membres du Conseil de sécurité ont ainsi renforcé à l'unanimité les mesures limitant les exportations de produits pétroliers vers la Corée du Nord et décidé d'exiger le rapatriement des travailleurs nord-coréens à l'étranger. Et puis on vient de l'apprendre, la tempête tropicale qui s'est abattue hier sur le sud des Philippines a fait au moins 74 morts et des dizaines de disparus, selon donc un nouveau bilan annoncé par les autorités.
On revient sur cette mauvaise nouvelle. Pour tous ceux qui se chauffent au gaz naturel, le 1er janvier, les tarifs vont augmenter.
Une augmentation en moyenne proche de 7%, 6,9 très exactement. La troisième hausse en l'espace de 3 mois pour les 5,5 millions d'abonnés concernés. Une hausse imputable à une taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel et qui, selon Florian Tostivin, rédacteur chez Selectra, un comparateur de fournisseurs d'énergie, pourrait bien être suivi d'autres augmentations. Florian Tostivin, joint au téléphone par Lola Fourmi.
C'est l'augmentation en effet de la taxe de la TICGN. Qui sert notamment à financer le chèque énergie qui va arriver dès le 1er janvier 2018 et également la taxe carbone qui vise à faire ressentir le prix des émissions de CO2 pour les énergies polluantes. Cette taxe, elle est affectée au budget de l'État, c'est le gouvernement qui décide de son montant et ça a été adopté définitivement par le projet de loi de finances par l'Assemblée nationale et du coup, il se répercute dès le 1er janvier.
Donc là, vous êtes en train de nous dire que cette augmentation dès le mois de janvier, c'est la première d'une longue série ?
Tout à fait, il y en aura une a priori, tous les ans, jusqu'à la fin du quinquennat de M. Macron, elle devrait passer donc en 2018, du coup, de 8,45 € par mégawattheure à 16,02 € par mégawattheure en 2022. Donc elle va vraiment augmenter énormément.
Nous allons refermer ce journal par un anniversaire qui nous touche tous, vous et nous d'ailleurs, celui du transistor, inventé en 1947, ce petit composant électronique, qui a d'ailleurs valu un prix Nobel à ses auteurs, a ni plus ni moins fait que révolutionner le monde de l'informatique et bien sûr celui de la radio, Mathilde Deumy.
1947, les Américains inventent le transistor, appelé résistance variable de transconductance, un composant électronique qui donne un coup de vieux au poste radio à lampe. Jean-François Néolier, ingénieur son à Radio France.
Un transistor, ça fait 0,5 cm comme composant. Avant le transistor, il y avait des tubes. Même les miniatures faisaient 5-6 cm. Il fallait une prise de courant pour les alimenter. Donc, on passait sur des volumes assez importants.
Plus besoin de prises électriques.
Des piles à la mesure de l'électronique d'aujourd'hui.
Des piles suffisent, ce qui permet de dépanner quand on n'a plus d'électricité. Intersoir 1960, Jacqueline Baudrier.
Tommy Franklin, je vous arrête. Qu'allez-vous faire à Saint-Étienne-de-Tinée ?
Nous allons vers Bouzeillas, un village totalement abandonné. Une seule personne qui est restée, c'est Madame Dalmas. Et alors, nous avons décidé de lui apporter un poste à transistor pour égayer son Noël.
Le transistor est un tournant sociologique, rappelle Stéphane Devernet, ingénieur son à Radio France.
Avant le poste à lampe, c'était comme la télévision dans les années 50. On se mettait devant, on écoutait la radio. L'écoute de la radio devient individuelle. Les gens écoutent la radio dans la rue, sur la plage. Ils écoutent la musique qui va avec, le rock. C'est la libération de la jeunesse.
Le transistor révolutionne aussi l'informatique.
Cet homme a choisi le risque.
Aujourd'hui, on écoute de plus en plus la radio sur son téléphone, mais beaucoup gardent précieusement leur transistor devenu vintage.
Le vrai risque, c'est de ne pas avoir de radio là.
Le transistor devenu vintage, Eric, vous vous rendez compte? Et donc objet de collection, tout comme le poste à galène et autres postes à lampe.
Vous avez
voilà, voilà qui nous met un coup de vieux quand même. Bon, puisque vous me donnez un petit peu de temps, j'en profite pour rappeler d'ailleurs qu'associé à l'association Les Enfants du Canal, France Inter distribue en ce moment des postes de radio personnes sans abri.
Absolument.
Des radios solaires et dynamo que l'on peut faire fonctionner sans pile, justement, à l'aide de l'énergie solaire ou bien alors en tournant une petite manivelle, un transistor des temps modernes. Quoi.
Et vive la radio.
Mais il y a des postes à galène hein, au musée de Radio France.
Et on ira voir ça avec avec
ainsi
intérêt.
Que vous, Patricia.
Bah oui.
C'était le journal de Serge Martin. C'était une mauvaise plaisanterie. Bonjour drôle. Laetitia Bernard.
Ouais, ça me fait rire.
Voici les sports.